Notre Dieu, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous te bénissons, mon Dieu Jésus, pour tout ce que tu nous accordes toujours, pour les éclairages que tu nous donnes par ton Saint-Esprit, pour notre conduite dans notre vie. Merci, mon Dieu, de nous bénir et de nous accorder toujours ta paix. Merci, Seigneur, de bénir aussi la famille Navez qui est là-bas et qui se réjouit. Je te bénis, mon Dieu, pour cela. Et merci Seigneur pour tout ce qu'ils vont pouvoir être et faire. Que ton nom soit glorifié, que ta parole fasse du bien à nos cœurs ce matin. Que nous soyons tous vraiment réjouis d'apprendre toutes ces choses et que nous puissions te glorifier. Amen. Amen. On va chanter encore un chant. Lequel tu nous proposes ?
Le chemin vers le ciel.
Le chemin vers le ciel. On va le chanter. Le chemin vers le ciel, le numéro 11. Voilà.
Nous sommes un peuple en chemin qui vit pour un lendemain. Nous n'apprenons plus la haine, nous ne faisons plus de peine. Ce chemin est merveilleux car il conduit vers les cieux. Où est notre patrie? La vraie vie, je suis déjà en chemin. Lève-toi avant tout et viens, car notre Dieu est bon. Dans ce monde de merveilles, nous ne sommes plus pareils. Le chemin du paradis est pour
Amen. C'est un beau chant que notre frère Dominique Boisset a composé il y a déjà quelques années de cela. Hein? Et il faudrait qu'il nous en recompose encore, notre frère Dominique Boisset. Qu'est-ce que vous en dites? Que Dieu soit béni. On va faire une lecture dans les Écritures ce matin, dans Exode 33 et au verset 18. Exode 33, verset 18. Enfin, verset 17 déjà. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom, Moïse. » Moïse dit, vous voyez, il dit, « Je ferai ce que tu demanderas. » Alors Moïse, c'est vraiment un homme formidable, il dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas être vue. » Amen. Je vais vous asseoir. Je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai enseigné vendredi passé, c'est que nous sommes des esprits. Mes frères et sœurs, nous sommes des esprits qui habitons dans des corps. Dieu nous a fabriqué un corps dans le sein de notre mère. Hier, on parlait justement avec Titi, avec mon petit-fils, de cela, au sujet de comment il était dans le ventre de sa maman et comment Dieu a fait les choses d'une façon si merveilleuse. On passe le plus clair de notre temps éveillé. Hein, les deux tiers de notre vie, on est éveillé et puis un tiers, ben, on dort. Hein, à peu près, à peu près. Et quand nous dormons, nous sommes inconscients. Je vous ai déjà prêché ces choses, je vous ai déjà enseigné en vous disant à quoi ça sert. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est quand même quelque chose de magnifique. Et il faut savoir pourquoi. Quand nous sommes éveillés, alors on a la possibilité d'héberger ou de refuser les messages qui viennent de l'extérieur. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Bref, on est conscient quand on est éveillé et on se sent vivre. On se sent vivre. Et c'est bon de vivre, non? Même quand on a des problèmes, c'est bon de vivre. Et plus il y a de choses à résoudre, plus je me sens vivant, pas vous? Ah là là, qu'est-ce que je me sens vivant en ce moment? J'aime être conscient de ce qui se passe. Je suis de nature curieuse, j'aime sentir ce qui se passe, j'aime voir ce qui se passe, j'aime saisir les opportunités, j'aime vivre. Et vivre, ce n'est pas toujours facile. Jésus ne nous a jamais dit que ça serait facile. Alors, Dieu pourvoit en nous donnant la possibilité de dormir un peu, de nous reposer. Voilà. Parce que notre corps prend des chocs, n'est-ce pas, avec tout ça. Et vous allez voir que c'est important. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin, le pourquoi on dort. Parce qu'on a un corps... Enfin, je vais vous expliquer. Quand on dort, on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de nous. Cependant, on est bien vivant. Et c'est une partie de notre esprit qui prend en charge les fonctions de notre corps, c'est-à-dire la circulation du sang, les fonctions vitales, la respiration, le thermostat, vous savez, ça continue à se régler, tout ça. Bref, toute chose continue sans que nous en soyons conscients. Notre esprit est une partie de l'esprit de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants spirituels, en fait. Alors, nous étions déchus, mais nous sommes nés de nouveau, nous sommes redevenus des enfants spirituels maintenant, nés par lui, nés en lui. Est-ce que nous sommes, avant d'être ce que les gens voient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils voient quand ils nous voient? Ils voient nos corps. Tiens, celui-là il est grand, celui-là il est petit, celui-là il est gros, celui-là il est maigre, celui-là il est beau, celui-là il est moche. Bon, voilà, c'est le corps, on voit d'abord. Mais ce que nous sommes avant tout, c'est pas ça, c'est ce que nous sommes, c'est un esprit. Nous ne sommes pas un corps, nous avons un corps. Nous sommes à l'image de Dieu, et Dieu est esprit. Amen. On dit, Dieu est esprit, et c'est pourquoi il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors c'est vrai que, bon, ben, on adore Dieu aussi avec la voix, avec les mains. Il y a un petit cantique africain qui dit ça. « Je l'adore avec mes mains, je l'adore avec mes pieds », tout ça. C'est, voilà, on a aussi un corps. Bref, mais nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu est esprit. Et c'est l'esprit qui a la plus grande puissance, la plus grande force. Il n'y a rien qui change dans notre vie qui change sans que l'esprit le veuille. Tout, par exemple, même là, je suis face à la fenêtre et je vois les voitures qui s'arrêtent au stop, là, devant le château. Ils ont mis un stop. Ben, c'est un esprit qui a décidé ça. Vous me direz, ah bon, un esprit? Oui, l'esprit d'un homme ou de plusieurs hommes et femmes qui se sont réunis puis qui ont eu une inspiration. Ils ont dit, ça serait quand même bien qu'on mette un stop à ce carrefour parce qu'il est dangereux. Hein? Ce n'est pas des corps qui tout d'un coup sont venus comme ça. Non, c'est des pensées, c'est des esprits qui ont décidé, ils ont réfléchi, tiens, la couronne qui s'arrête, ça n'arrête pas de s'arrêter. Alors, vous voyez, tout commence dans l'esprit, dans la pensée. Alors je ne dis pas que l'esprit, c'est la pensée, mais je dis que la pensée, c'est une partie de notre esprit. Donc il faut veiller à notre façon de penser. C'est important, parce que ça peut nous éloigner de Dieu qui lui-même aussi pense. Dieu n'est pas une pensée, Dieu est esprit, mais il pense aussi, comme nous. Nous sommes un esprit qui pensons. Donc, notre pensée, c'est une partie de notre esprit est une partie de Dieu, et Dieu est un. Ça signifie que plus vous êtes en ordre avec Dieu, plus vos pensées sont justes. C'est une vérité à la Palice. Mais ce n'est pas toujours facile d'ajuster nos pensées avec les pensées de Dieu. Quoique pourtant, quand même, la plus grande partie de ce qu'il pense, on peut savoir ce que c'est, puisque c'est dans la Bible. Notre esprit, il est de la même nature que l'esprit de Dieu, puisque c'est lui qui l'a créé. Seulement, notre esprit est dans un corps de chair et de sang. Et vous allez voir que ça a une très grande importance, une plus grande importance encore que ce que vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, et même de ce que j'ai cru jusqu'à il n'y a pas longtemps. Alors, que l'Esprit de Dieu, lui, il est dans un corps glorifié, un corps de gloire. C'est pourquoi il ne dort ni ne veille. C'est écrit dans Psaume 121, 4. Nous, par contre, on a besoin de dormir parce que notre corps est différent du sien. Maintenant, si vous vous accordez avec ce que Dieu veut,
Et ce qu'il veut, c'est pas trop difficile à savoir, c'est pas impossible à savoir. La partie la plus importante de ce qu'il veut est écrite dans la Bible. C'est pourquoi c'est nécessaire de connaître la Bible. C'est indispensable. Si on ne cherche pas à lire la Bible, si on n'aime pas la Bible, si on n'aime pas lire la Bible, mais c'est qu'on a un problème avec l'esprit. Puisque c'est l'esprit de Dieu qui a dicté ce livre afin que nous soyons nourris. On a besoin de nourriture, hein, spirituelle. Donc je disais, si vous vous accordez avec ce que Dieu veut, ben vous le vivez. Si vous accordez avec ce que Dieu, si vous vous accordez avec ce que Dieu veut, quoi que ce soit que vous demandiez, il vous le donnera. Il le dit aussi cela, n'est-ce pas? Parce que votre esprit sera en communion avec l'esprit de Dieu et que notre esprit est de la même nature que l'esprit de Dieu et qu'il a les mêmes qualités. Alors ce qui gâche tout, c'est notre corps. Et je vais vous faire une démonstration. Vous n'avez jamais pensé à ça. Et moi, il n'y a encore pas longtemps, je n'y pensais pas du tout non plus. Et je sais que la plupart des chrétiens ne savent pas ces choses-là. Parce que notre corps emmagasine, consciemment, aussi bien des bonnes choses que des mauvaises choses. Quand je dis qu'il emmagasine, c'est parce que tout ce que notre conscient perçoit, il le perçoit par nos sens, c'est-à-dire notre corps, les yeux, le toucher, l'ouïe, c'est-à-dire les oreilles, le cerveau, tout ce chenille. Hein. Votre conscient, il fait partie de ce que vous êtes. Mais votre conscient, ce n'est pas votre esprit, c'est une partie de votre esprit aussi. Mais le conscient, c'est la partie de votre esprit, de votre vie, qui s'informe avec les cinq sens que vous avez. Il s'informe et avec les sens qui sont des facultés de votre corps. Et votre corps, il est loin d'être ce qu'est le corps de Dieu. C'est pourquoi il y a des très grandes différences qui peuvent se produire. Votre corps n'est pas glorifié, pas encore. Il capte des informations plus ou moins vraies, plus ou moins justes, et il ajoute ça à d'anciennes informations, et puis alors ça fait dans la tête de certains un fourbi pas possible. Mais voilà quoi. Parce que ça se passe dans la matière, dans le cerveau. Et ça passe aussi par nos nerfs. Ça passe par notre bile. Hein, on se dit, je fais de la bile. Ça veut dire quoi, ça? Et c'est vrai, c'est comme ça. Donc, notre esprit conscient n'est pas fiable. Il n'est pas fiable à cause de notre corps. Et c'est ainsi depuis que Adam et Ève ont péché. Mais je vais vous dire pourquoi maintenant. Je vais vous expliquer, je vais vous ouvrir les yeux afin que vous sachiez ces choses, parce qu'à la fin des temps, toutes choses doivent être rétablies, la connaissance doit augmenter, pas simplement pour qu'on se dise « youpi, j'ai de la connaissance », mais pour qu'on puisse glorifier Dieu en esprit, en vérité, avec beaucoup plus d'authenticité. Avant le péché, Adam et Ève étaient parfaitement à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Est-ce que vous le croyez?
Oui.
Vous le croyez vraiment?
Oui.
Ils étaient des enfants d'esprit, puisque Dieu est esprit. Ils avaient un corps spirituel, immortel, comme Dieu, éternel. Ils étaient comme Dieu, à son image et à sa ressemblance parfaite. Vous savez, dans les milieux chrétiens, on parle souvent de la Shekinah et ils disent toujours, la Shekinah, c'est la gloire de Dieu. C'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai. C'est comme si vous dites, la pensée, c'est l'esprit. C'est comme si vous dites, la conscience, c'est l'esprit. C'est vrai, mais pas complètement. La Shekinah, c'est pas que la gloire de Dieu. C'est beaucoup plus que ça. Le mot Shekinah vient du mot Shakan, qui signifie résider. On retrouve ce mot dans Mishakan, qui signifie le tabernacle. Dans Exode 33, 22,
Quand second écrit dans ce que je viens de lire là, « Ma gloire passera devant toi », ma Shekina, « mais tu me verras par derrière », c'est-à-dire tu verras mon dos. Il aurait dû écrire « Mon tabernacle passera devant toi ». « Ma résidence passera devant toi. Tu verras mon dos, mon tabernacle, mon lieu de résidence, mon corps. » Aujourd'hui, son esprit réside en nous. Mais il réside aussi bien en moi qu'en Rachel, qu'en Dominique, qu'en Robert. Qu'en... Pourquoi ? Parce qu'il est omniprésent. Mais il réside quelque part. Dieu ne dit pas, tu ne peux pas me voir parce que je suis invisible. D'accord ? Dieu ne dit pas, tu ne peux pas me voir parce que je n'ai pas de corps. Non. Dieu ne dit pas, tu ne peux pas me voir parce que je suis esprit et que je n'habite en rien, que je ne tabernacle en rien. Non. Il dit, tu ne peux pas me voir parce que si tu me vois, tu meurs. C'est-à-dire, c'est dangereux pour toi de me voir. Parce que ton pauvre corps corrompu par le péché, ton corps de chair et de sang, ne pourrait pas supporter de voir mon corps saint. Tu ne pourras pas me voir parce que je suis saint, trop élevé par rapport à toi. Par contre, je veux bien te couvrir de ma main jusqu'à ce que j'aie passé, et lorsque je retournerai ma main, tu verras mon dos, tu me verras par derrière. Mais ma face, tu ne pourras pas la voir. N'est-ce pas ce qui est écrit ? Alors, les théologiens, qui la plupart du temps sont même pas nés de nouveau, ont dit, ont écrit, puis les chrétiens nés de nouveau ont répété, « Dieu est esprit, c'est Jésus qui l'a dit ». Mais ils ont raison, mais pas complètement. Et il continue en disant, « Donc, puisque Dieu est esprit, quand il parle de sa main, de son dos, de sa bouche, de son bras, de sa face, ce sont des images. Il n'a pas de main, il n'a pas de dos, Dieu n'a pas de bouche. Bah !» Et ils ont collé sur Dieu. Sur toute cette chose, ils ont collé un mot scientifique, merveilleux, que je vais vous demander de retenir, c'est l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités, comme par exemple Dieu. On va dire, voilà, Dieu a, pour qu'on puisse comprendre, parce qu'on est tellement bête, n'est-ce pas ? On ne peut pas comprendre que Dieu parle sans bouche. Alors on va dire la bouche de Dieu, mais Dieu n'a pas de bouche. Mais il parle, mais il n'a pas de bouche. Vous comprenez ? Et ça s'appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire on va dire que Dieu a une bouche, a des mains, a des bras, mais ce n'est pas la réalité, c'est une image. On donne à Dieu une image humaine un peu, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours que la Bible raconte des bobards ? Mais pourquoi ils veulent toujours que la Bible raconte des bobards ? Pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces théologiens ? Dieu, comme nous, est esprit. Ça, c'est vrai. Jésus le dit. On dit l'esprit de Dieu. Je vais dire l'esprit de Stéphane. On va dire l'esprit de l'homme, l'esprit de la femme, etc. Notre corps est vivant. Tant que notre esprit réside, tabernacle dans notre corps. Après, si l'esprit sort, le corps, c'est rien, c'est la poussière. Dieu est esprit, et pourquoi dire qu'il n'a pas de corps ? Pourquoi dire qu'il n'a pas de corps ? Pourquoi ? Dans le psaume 104, 2, il est écrit, « Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Dieu met un manteau. Est-ce que c'est de la poésie ? Oui, Michel, c'est de la poésie. Moi, je dis non, c'est la vérité. Arrêtez avec toujours ces histoires de dire que c'est de la poésie. Pourquoi c'est de la poésie ? Si la Bible dit que Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, c'est que c'est vrai. Bon, maintenant, et si c'est vraiment vrai, comme je vous dis, alors je dis que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu
et à sa ressemblance, et qu'ils étaient des enfants d'esprit vraiment semblables à Dieu et à sa ressemblance, et qu'ils avaient un corps comme celui de Dieu. Un corps de chair et d'os. Pourquoi je peux dire une chose comme ça? Parce que dans Genèse 2, verset 23, il est dit, Adam, il voit sa femme. Il a vu tous les animaux avant. Mais quand il voit sa femme, il dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Il dit pas, « Voici celle qui est la chair de ma chair et le sang de mon sang. » Il parle pas de sang. Et puis, ils n'avaient pas honte d'être nus. Ils n'avaient pas honte d'être nus parce que le corps spirituel de Dieu est parfait. Et le leur aussi était parfait. Et souvenez-vous que quand Jésus est venu tabernacler, c'est-à-dire résider dans un corps semblable au nôtre, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit dans Romains 8, 3, que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il y a une chair semblable à celle du péché et il y a une chair semblable à celle de Dieu. Ah ! Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça ? Non. C'est étrange. Voyez-vous, quand je commençais à annoncer le baptême à la place des morts, c'était une catastrophe. Maintenant, avec ça, ça va encore être pire. Là, maintenant, je suis vraiment un hérétique fini. Non, mes frères et sœurs, simplement, il faut avoir l'esprit ouvert à la révélation de ce que Dieu donne. Y aurait-il une chair qui n'est pas semblable à celle du péché? Puisque Jésus-Christ a pris une chair semblable à celle du péché afin de pouvoir porter nos péchés. Et en finir avec cette histoire de péché. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que c'est une chair semblable à celle du péché? C'est une chair avec du sang. Or, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50. Alors, écoutez bien ça. Adam et Ève étaient comme Dieu, créés à son image, à sa ressemblance, et Adam et Ève avaient un corps de chair et d'os. Genèse, chapitre 3, on vient de le lire. Voilà, tu es comme moi, tu es de chair et d'os. Et ils ont péché. Et ils se sont vus nus. Et se voyant nus, ils se sont cachés. Genèse 3, 7, 10. Ils ont appris qu'ils étaient nus. C'est Dieu qui le dit. Genèse 3, 11. Qui vous a appris que vous êtes nus? Est-ce que vous n'auriez pas par hasard désobéi à ce que je vous ai dit? Vous savez bien qui leur a appris qu'ils étaient nus. Vous savez bien comment ça s'est passé. Je ne vais pas revenir sur la semence du serpent. Vous connaissez tous ça. Alors les théologiens nous racontent que Dieu a tué un animal et qu'il l'a dépecé et qu'il leur a fait des fringues en peau de bête. C'est pas ce qu'ils nous disent? Et ils vont même jusqu'à nous dire, voyez, Dieu a fait le premier sacrifice en tuant le premier animal afin que le sang coule et que, n'est-ce pas, ça soit à l'image de Jésus. Mais est-ce que c'est écrit ça? Non, c'est même pas écrit. C'est très joli, mais c'est aussi faux que l'histoire de la pomme. Lisons pour voir réellement ce qui s'est passé. Genèse 3, 21. Voilà, c'est la seule chose qui est dite. L'Éternel fit à Adam et Ève des habits de peau et les en revêtit. C'est tout. C'est pas écrit que Dieu a tué un animal. C'est pas écrit qu'il a dépecé l'animal et qu'il a fait sécher la peau, puis qu'ensuite il aura fait un vêtement avec la peau de cet animal. Ça, c'est l'imagination des théologiens. Charnel. La réalité est tout autre. Adam et Ève ont été créés nus, c'est-à-dire innocents. Ils étaient semblables à Dieu, avec un corps comme celui de Dieu, un corps glorieux de chair et d'os. Os de mes os, chair de ma chair. Mais ils n'étaient pas encore revêtus de lumière, comme Dieu, psaume 104.1, qui est revêtu de lumière comme d'un manteau, ils n'étaient pas revêtus, ils étaient nus. N'est-ce pas écrit qu'ils étaient nus? Dieu voulait les revêtir de lumière.
comme il voulait aussi leur donner la connaissance du mal, du bien et du mal, mais il voulait que le leur donner, eux, ils l'ont volé, la connaissance du bien et du mal, ils ont désobéi. Et avant de les revêtir de lumière, Dieu les a éprouvés. Et comme ils ont péché, Dieu les a revêtus, non pas de lumière, mais de peau. De peau. Et non de lumière comme il l'est revêtu lui-même. C'est-à-dire que leur esprit va habiter dans un corps de peau. Ça veut dire que leur esprit va habiter dans une chair de péché. Et ils sont devenus des êtres de chair et de sang, comme les veaux, les vaches et les cochons. Or, la chair et le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Et je vous donne un signe supplémentaire à cela, si vous n'êtes pas encore convaincu, dans les Écritures. Vous vous souvenez de Jésus ressuscité ? Après qu'il ait versé son sang à la croix, parce qu'il avait une chair semblable à la nôtre avec du sang, il apparaît premièrement à Marie au tombeau avec son corps de chair et de sang et lui dit « Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au Père. » Vous vous rappelez de ça ? Jean chapitre 20, verset 17, ça vaut la peine d'être lu. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit « Ne me touche pas. » Je ne suis pas encore, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala, elle a vite annoncé à ses disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présentant au milieu d'eux, passe à travers la porte, passe à travers les murs. Et il leur parle, etc., etc. Et puis ensuite, huit jours après, verset 26, Thomas n'était pas là la première fois que Jésus s'est montré. Donc Thomas est là cette fois, la deuxième fois, huit jours après. Et Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Et nous avons dans Luc 24, 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Jésus dit ça. Il dit « Je suis ». Parce que, réfléchissons, il est en train de leur dire qu'il n'est pas une apparition, il n'est pas un fantôme. Le texte nous dit qu'ils étaient saisis de frayeur et d'épouvante, croyant voir un esprit, un fantôme. Comme dans Matthieu 11, 26, quand Jésus marchait sur l'eau à la rencontre, ils ont cru que c'était un fantôme, un esprit. Et ils ont dit, non, je ne suis pas un esprit. C'est moi, un esprit n'a ni chair ni os. Comme j'ai un corps, mais... Il dit pas de chair et de sang, il dit d'os, de chair et d'os. Ah ! Est-ce que vous croyez que c'est par hasard que c'est écrit comme ça ? Non, c'est écrit pour que nous le voyions, c'est écrit pour que nous comprenions, pour que nous sachions. Il leur dit, non, n'ayez pas peur, je ne suis pas un fantôme, c'est moi, j'ai un corps de chair et d'os. Il a repris son corps divin de chair et d'os comme celui que Adam et Ève avaient reçu quand ils ont été créés. Quand est-ce qu'il a reçu ? Entre l'apparition à Marie et l'apparition aux disciples. Parce qu'à l'apparition avec Marie, il a dit « Ne me touche pas ! Je ne suis pas encore monté au Père. » Il avait encore son corps de chair et de sang. Il monte au Père, il met le sang sur le propitiatoire. Il se reprend son corps divin et il descend sur terre. Son corps divin passe à travers les murs, il fait toutes ces sortes de choses. Il dit, voyez, j'ai un corps de chair et d'os. Vous pouvez me toucher. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous comprenez la grandeur de la chose ? Gloire à Dieu ! Moi, ça me réjouit. Il est esprit et il tabernacle, il vit, il réside dans un corps merveilleux de chair et d'os. Et il se revêt d'un manteau de lumière. Et nous sommes des esprits, mais nous sommes des esprits encore de chair et de sang. C'est ça la différence entre lui et nous. Mais nous allons être transformés, nous allons être glorifiés, nous allons être changés. C'est-à-dire nous recevrons un nouveau corps. À votre avis, un corps de chair et d'os. Plus de sang. Le sang n'hérite pas le royaume de Dieu.
Je crois à la résurrection des corps, mais sans le sang. Nous n'aurons pas de sang. Car ainsi que le dit 1 Corinthiens 15, 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Ce qui a été corrompu, c'est notre vie. Et notre vie, elle se trouve dans quoi? Dans notre sang! N'est-ce pas écrit? Vous voyez, mes frères et sœurs, nous sommes esprits, mais nous habitons des corps de chair et d'os, nous habitons dans des corps de chair et de sang, des corps mortels. Mais avant, Adam et Ève n'avaient pas des corps mortels, ils avaient des corps éternels. C'est pourquoi Dieu dit maintenant, il les a chassés de ça, il a changé tout ça, il les a revêtus d'un corps de peau. C'est-à-dire de chair et de sang. Adam et Ève avaient, avant la chute, des corps de chair et d'os, et ils étaient immortels. Et Jésus, une fois remonté au Père avec son corps de chair et de sang, et que Marie n'avait pas le droit de toucher, Jésus est revenu avec son corps de chair et d'os, et il a dit « Touchez-moi !» Parce que quelque chose s'était produit. Il n'avait plus son corps de chair et de sang que Dieu lui avait donné. Tu m'as formé un corps, ô Éternel, vous rappelez, afin qu'il vienne dans un corps semblable à celle du péché, un corps de chair et de sang semblable à celle du péché. Il n'avait plus ça. Il était monté au Père, il avait repris son corps de chair et d'os et il est revenu. Notre esprit est de nature divine, mais notre corps est animal. C'est pourquoi il est dit que il faut pas qu'on soit charnel, c'est-à-dire avec notre chair, parce que notre chair, elle est vivifiée par la vie, elle est cachée dans le sang. Et c'est pas bon. C'est le péché quand on est charnel. Parce que c'est le sang qui est là-dedans. Lors de la chute, notre corps a été changé et il a été revêtu de peau comme celle des animaux. Nous sommes descendus dans le règne animal. L'apôtre le dit. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous leur prêchez, parce que ils sont du règne animal, n'est-ce pas dit, n'est-ce pas écrit? Bien sûr que c'est écrit. Et voilà pourquoi nous avons besoin de sommeil, pendant que notre corps dort, notre esprit, lui, ne dort pas. Et si vous êtes des gens consacrés, si vous êtes des gens de Dieu, votre esprit, il converse avec Dieu pendant que votre corps est dans cette inconscience et que votre chair et votre sang dorment. Et au matin, vous pouvez aller faire les œuvres préparées à l'avance, consciemment, en tenant votre corps de chair et de sang dans la soumission à Dieu. Est-ce que ce n'est pas une merveille? Vous savez, c'est en apprenant à connaître Dieu que nous parvenons à la relation que Jésus décrit au sujet des disciples. Quand il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. » Jean 17, 21. En esprit, nous pouvons être un avec lui, mais pas avec notre corps. Il faudra qu'il soit changé. Alors en attendant, on se traîne comme des pauvres misérables avec notre corps, en train de toujours choisir entre le bien et le mal. Dieu choisit jamais entre le bien et le mal, parce qu'il n'a pas un corps de chair et de sang. Mais il a un corps différent. Mais il a un corps. Est-ce que vous avez compris cela ce matin? Alors je sais, c'est nouveau, il va falloir réfléchir. Il va falloir vous mettre dans la prière, demander à Dieu, est-ce que c'est vrai? Et puis, le Seigneur va vous révéler. Et il va vous conduire dans toute la vérité. C'est ce que le Saint-Esprit fait toujours. Amen. Et c'est réjouissant de savoir, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va être? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est monté dans le ciel? Et il a un corps maintenant. Et nous savons que Dieu est un, il n'y a pas 150 dieux. Jésus-Christ est Dieu avec un corps. Amen. Eh bien, nous aurons aussi un corps, mais pas de chair et de sang. Que Dieu vous bénisse. Ça sera merveilleux parce que c'est ça qui nous fait tous nos problèmes, c'est le sang. Parce que la vie, elle est dedans. Et ça, c'est quelque chose que nous avons hérité à cause de la chute. Avant, nous n'avions pas ce sang, nous n'étions pas comme ça. Nous étions simplement des esprits vivants. C'est tout.
Seigneur, veuille bénir ces paroles et nous aider à voir toutes les possibilités que cela ouvre devant nous pour que nous puissions mieux maîtriser ce corps de chair et de sang, afin de pouvoir nous être trouvés dignes lors de ton retour, d'être transformés. Merci Seigneur de permettre que déjà par ton esprit, en lisant ta parole, en entrant en communion avec toi, nous puissions être transformés de gloire en gloire à ton image. Mais mon Dieu, que le but final, lorsque tu reviendras, que cela puisse être une réalité. En un clin d'œil, nous serons changés, transformés, et nous recevrons un nouveau corps. Seigneur, merci de nous avoir révélé cela encore aujourd'hui dans notre Église, et permets que cela fasse du bien à ceux qui sont sur Internet. Je peux comprendre que certains doutent un peu, mais je te prie qu'ils cherchent, et s'ils cherchent vraiment de tout leur cœur, avec une réelle intention, non pas de détruire, mais de construire, de comprendre réellement, eh bien, ils trouveront, parce que celui qui cherche, il trouve. Merci Seigneur Jésus. Sois béni mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu.